Frères et sœurs, amis en Christ, si on vous dit adultère, à quoi pensez-vous? Donc, cet enseignement sur le mot adultère devrait ouvrir les yeux à beaucoup de croyants, car lui, le croyant, aime et marche selon la volonté de Dieu. Et c'est une attitude, un comportement et une conduite normale, afin d'être agréable à Dieu notre Père. C'est pour cela que nous allons ouvrir les Écritures saintes pour connaître véritablement ce qu'est le mot adultère aux yeux de Dieu. Adultère. Qui est adultère aux yeux de Dieu ? Avant d'entrer dans la profondeur de cette qualification du mot adultère, selon Dieu et selon le monde des hommes, vous êtes invités, frères et sœurs en Christ, à reprendre et à méditer sur ces passages de l'épître de Jacques, le frère de Jésus. Jacques 4, versets 1 à 17. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans ces passages, il y a deux versets qui résument la pensée de Dieu, qui clarifie la qualification spirituelle du mot adultère. Donc nous allons reprendre Jacques 4, verset 4 et verset 17. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. pour adorer, louer, glorifier Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, le croyant chrétien doit connaître la pensée de Dieu. Sans cette connaissance de la pensée de Dieu, il s'égare dans les considérations purement humaines. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Les pensées de l'homme sont d'abord limitées. Par ces pensées limitées, l'homme se laisse conduire vers la mort par elles. Alors que faire ? Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'esprit de Dieu que l'homme croyant chrétien doit être conduit pour lui permettre de connaître ce qui est agréable à Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Poursuivons avec Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre de Jésus sous la conduite de l'Esprit de Dieu, a écrit dans 2 Corinthiens 3, 6 « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sans l'esprit de Dieu, l'esprit de la vérité, ceux qui enseignent qui sont dépourvus de l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, enseignent par la lettre et non par l'esprit. Ils donnent des enseignements dépourvus de la vérité et qui sont entre courants de la pensée de Dieu, c'est-à-dire contraire à sa parole, Jésus-Christ. Pour le monde, être ou commettre l'adultère, c'est tromper son mari ou sa femme avec un autre homme ou une autre femme. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ou de femmes disent souvent. Je n'ai jamais trompé mon mari ou ma femme depuis qu'on est ensemble. C'est-à-dire, il ou elle n'a jamais commis d'adultère. Pour Dieu, commettre l'adultère ne s'arrête pas seulement à l'acte sexuel. Pour le monde et la pensée de l'homme, commettre l'adultère s'arrête qu'à cela. Jean 8, versets 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Vous voyez, la qualification d'adultère pour le monde s'arrête à ce fait. Mais la pensée de Dieu n'est pas limitée qu'à ce seul fait. Jésus-Christ, la parole de Dieu, a donné par sa réponse la vraie signification globale, selon la pensée de Dieu, par son Esprit Saint, Esprit de vérité. Jean 8, versets 7 et verset 11. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 11. Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ici, le Seigneur parle du péché. Celui qui pêche commet l'adultère. Celui qui ment, qui vole, juge, condamne, frappe, insulte, tue. Celui qui ne partage pas, celui qui est égoïste, qui critique, qui haït, convoite, envie, qui ne pardonne pas, qui n'aime pas son prochain. Celui qui commet toutes ces choses, commet l'adultère. Il est pécheur. Il a trompé son mari, son époux, Christ. Tout croyant chrétien est l'épouse du Christ. Le Christ est l'époux de tous ceux qu'il a rachetés par le sang de son corps, Jésus. Le croyant chrétien est donc la propriété de Dieu par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Exode 4, verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apocalypse 21, versets 2 et 3. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le croyant chrétien étant l'épouse du Christ Dieu, c'est-à-dire épouse de la parole de Dieu, il doit lui rester fidèle. Le croyant chrétien qui fait le contraire de ce que dit la parole de Dieu est adultère, donc infidèle à son époux, Christ. Jésus est l'épouse du Christ. L'époux et son épouse sont un. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. un croyant chrétien qui transgresse la loi royale donnée par le Christ est un adultère. Jésus, l'épouse fidèle de Christ, n'a jamais trompé son époux. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. L'homme qui est Jésus n'a pas commis le péché. Il n'a jamais trahi jusqu'à la mort. Il est resté fidèle. Dieu, par son Christ, demande aux croyants chrétiens cette fidélité. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu a créé ce corps Jésus pour épouser Christ. Christ et Jésus sont un. Christ a quitté son Dieu pour se revêtir de son épouse, son corps, sur la terre pour faire un. Pour qu'à travers son corps, Christ, la parole, accomplisse la volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est Dieu qui nous conduit vers son Christ pour faire un avec son Christ. Le croyant chrétien devient par le baptême de l'eau et de l'esprit le corps du Christ. Nous sommes des hommes comme Jésus l'homme. Il faut que nous devenions comme Jésus le corps du Christ et que nous devenions également les fils de Dieu adoptif. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus est né par Dieu et pour Dieu. Le croyant chrétien est né par le baptême de l'eau et de l'Esprit par Dieu et pour Dieu. Jean 1, verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans les versets 5 à 7 du même chapitre, Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit : il faut que vous naissiez de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour épouser Christ, la parole de Dieu. Vivre avec elle, vivre la parole de Dieu. Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voilà, frères et sœurs, amis en Christ, la vérité de l'Esprit de Dieu sur la qualification du mot adultère pour Dieu. Ne péchons plus de peur d'offenser notre époux, le Christ Dieu. Soyons Jésus, des véritables épouses fidèles corps du Christ. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Soyons la gloire de notre époux comme la femme est la gloire de son mari. Dieu, par Jésus-Christ, nous a aimés et nous aime toujours. Donc, par son amour pour nous, nous, croyants chrétiens, nous devons lui être fidèles et notre soumission doit être totale. Ces choses reflètent l'alliance nouvelle entre Dieu par Jésus et Christ, c'est-à-dire entre Dieu et l'homme. Voilà, frères et sœurs, pour cet enseignement de ce que c'est adultère aux yeux de Dieu. Que le Seigneur veille sur vous.